Je vais rester dans le sujet du jour, la louange, avec cet objet. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. Quelle joie de participer au chant, à la prière avec vous. Et puis, pourquoi j'ai amené cette bouilloire en cuivre? Il n'y a rien de plus triste qu'une argenterie ou que un cuivre oxydé par le temps, terne, pas entretenu. J'ai dans ma famille de hautes origines et nous avons de l'argenterie. Et je me souviens que de temps en temps, il faut faire briller l'argenterie. Alors les origines n'étaient pas assez hautes pour que ce soit des gens de maison qui fassent le travail. Et donc, ben voilà, il a fallu que je m'y colle et que d'autres le fassent aussi, de ma mère, mes grands-parents. Et cette bouilloire, d'ailleurs, est un souvenir de ce genre de geste. C'est l'argenterie ou des cuivres ternes sont, je vous laisse définir si cette argenterie, enfin si ces cuivres est terne ou pas. Elle a une longue vie, cette bouilloire. J'ai essayé de la récupérer, mais vous voyez, j'ai apporté ce qu'il faut pour l'entretenir. Donc, si vous voulez ensuite venir m'aider à entretenir ma bouilloire, je vous en serai reconnaissant. L'argenterie terne, pas entretenue, c'est un genre de passé qu'on considère sans intérêt. Une gloire qui n'existe plus, un faste oublié, des souvenirs qui s'étiolent. Et notre foi est ainsi faite. Elle peut ressembler à un cuivre terni, à une argenterie sans éclat, à un objet du passé, sans valeur, sans beauté, alors qu'il faudrait quand même prendre le temps de l'astiquer un petit peu. Il faudrait prendre le temps de la faire briller, notre foi, de lui redonner périodiquement son éclat d'origine. L'éclat qu'elle avait lorsque nous nous sommes engagés avec Dieu, lorsque nous avons dit « Oui Seigneur, je te suis », lorsque nous avons plongé dans les eaux du baptême, et là elle était brillante notre foi. Et puis petit à petit, notre foi, elle a fait comme notre argenterie, si on en a. Elle a terni. Comment la faire briller? Qu'est-ce qu'une foi terne d'abord et oxydée? C'est une simple mémoire des choses. On est capable de décrire la Bible. On est capable de dire « oui, je me suis converti ». On est capable de parler du contenu de ce que dit l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et 25. Je glisse ça au passage parce que c'est le sujet des groupes de maison cette semaine. Mais cela, sans que ces souvenirs-là, sans qu'ils aient d'éclat. C'est un vestige du passé. « Ah, c'était bien le jour où je me suis fait baptiser. C'était bien ». Ou alors une foi oxydée, une foi ternie comme de l'argenterie oubliée, c'est une adhésion de principe. On reconnaît que Christ est Seigneur et vraiment, si quelqu'un ose dire le contraire, on lui tombe dessus à bras raccourcis, au sens figuré. On l'a même confessé, oui, par le baptême. On va même à l'église, on est là ce matin. Mais cela ne se traduit pas par un comportement, par un engagement personnel, par un quelconque éclat qui brillerait de la lumière de Dieu. Alors comment faire briller notre foi? Comment lui redonner l'éclat du début? Paul avait de l'argenterie et il savait comment la faire briller. Chapitre 2 de la lettre aux Philippiens. Il y a dans ce chapitre une louange. Au cas où Marie-Ève était inquiète, le voilà quand même, le sujet de la louange. Jean-Marc est parti dans un genre de truc sur l'argenterie, les cuivres. Ça va plus chez lui. Eh bien, si, ça va. Je vais citer un cantique de la lettre aux Philippiens. Tout d'abord, je voudrais donner la phrase qui introduit ce qui s'avère être un cantique de l'Église primitive. Philippiens 2, verset 5. « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Et le voilà, ce cantique. Les biblistes s'accordent tous à dire qu'il s'agit de quelque chose que Paul cite, un cantique de l'Église primitive, quelque chose dont le vocabulaire change, n'est pas le style habituel d'une lettre, mais c'est une expression poétique travaillée de la foi chrétienne. Lui qui était vraiment divin, je lis dans la Nouvelle Bible Second, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même, en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Fin de la lecture au verset 11. Nous ne sommes pas dans un recueil de cantiques. Nous n'avons pas lu les paroles du numéro 256. Paul a cité ce cantique-là dans un développement avec des conséquences. Il parle aux Philippiens de leur comportement. Et c'est en leur parlant de leur comportement qu'il cite ce cantique. Ce cantique va lui servir pour appuyer l'exhortation qu'il vient de faire aux versets qui précèdent. Et je vais les lire, ces versets. C'est le début du chapitre 2. « S'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort dans l'amour, de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord. » Ah, ça, c'est du concret. Hein. « Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité. » Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. C'est lourd comme exhortation ce que Paul donne là. Hein ? Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Et c'est là que vient la citation de ce cantique. Autrement dit, la louange et la vie pratique ne font qu'un. Et il ne faut surtout pas les séparer l'un de l'autre. Paul cite ce cantique parce que ce cantique décrit l'attitude que Jésus a eue. Jésus a renoncé à l'éclat de sa gloire céleste, divine, pour venir dans notre humanité et même pour y porter notre péché. Alors, des cantiques existaient au temps de l'Église primitive, au moins celui-ci. Peut-être que les chrétiens, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, le chantaient plus ou moins bien ou le plus ou moins en rythme. Mais ces expressions de foi brillaient surtout par leurs conséquences dans leur vie. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut chanter faux ou pas en rythme. Mais je dis surtout que quand on chante, il faut que ce soit avec le rythme de nos vies et la musique de nos vies. Jésus a renoncé, oui, à la gloire de l'éclat, à la gloire du ciel pour apporter la délivrance aux humains. Alors nous, à l'école de Jésus, ne faisons rien, je cite les quelques versets du début du chapitre, ne faisons rien par ambition personnelle ou vanité, avec humilité, estimons les autres supérieurs à nous-mêmes. Et lorsque nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous, où il nous a estimés supérieurs à ses intérêts, puisqu'il est allé contre ses intérêts personnels pour nous servir, alors souvenons-nous de ce Jésus-là et que cela ait une conséquence dans nos vies, c'est que nous-mêmes, nous sachions venir servir les intérêts des autres avant les nôtres. Si le dimanche matin, je chante « Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre ». Vous connaissez ce chant? Alors, mince, j'ai oublié de noter le numéro 553. J'ai quand même noté le numéro. Si le dimanche matin nous chantons « Tu nous appelles tous à te suivre » et la quatrième strophe c'est « Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous », car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons, et si en sortant du culte, nous faisons tout le contraire, notre louange n'a pas de musique. Notre bouilloire est terne. La deuxième partie du cantique que Paul cite est un encouragement. Vous avez vu que la première partie, c'est, pour ceux qui ont une Bible sous les yeux, ou pour Joël, merci, c'est les chapitres, enfin les versets jusqu'à 6, 7 et 8. Mais au verset 9 jusqu'à la fin, au verset 11, il s'agit de la gloire de Jésus, que Jésus a retrouvée. Jésus, ainsi, nous donne un encouragement. Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des moments où on doit un peu oublier toutes les personnes qui sont venues hier faire la journée de chantier. Elles ont oublié de passer une journée confortable. Il y en a certains qui sont rentrés HS. On a oublié, puis d'un autre côté, un jour, on sera dans la gloire, nous aussi. Je pense aux personnes qui, plus grave que ce qu'on a pu vivre hier, je le cite comme un petit clin d'œil, vivent la persécution, pourraient échapper à toutes ces choses juste en reniant leur foi, en disant qu'elles ont une autre religion, je ne citerai pas. Ce serait facile pour elles. Mais elles ne renoncent pas. Elles tiennent. Parce qu'elles ont cet encouragement sous les yeux, sans doute, ou dans le cœur en tout cas. Jésus a oublié ses intérêts. Mais après, Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu, pour ses enfants qui souffrent aujourd'hui, pour son nom, va aussi les élever. Pas comme le Christ qui est Dieu le Fils, mais comme les enfants, comme ses enfants. N'oublions jamais cela. N'oublions pas qu'un jour nous serons soulagés des douleurs que nous pouvons avoir aujourd'hui. N'oublions pas aussi notre joie. Passons un coup de chiffon sur notre foi, parce que notre foi va briller. Notre foi, c'est aussi celle de la joie, parce que, à lire ce texte-là, ça ne vous donne pas de la joie, vous ? Dieu l'a souverainement élevé, lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. Mais attendez, voir, qui est Jésus pour nous ? C'est le nôtre. Et ça veut dire que notre Seigneur va être reconnu comme le Seigneur ? Ah, mais alors on est bien lotis. Et alors on a la joie, on a le sourire au cœur, aux lèvres et la joie dans le cœur. Le mal ne vaincra pas. Chers frères et sœurs, traduisons toutes ces choses dans nos vies. Que ce ne soit pas de simples proclamations du dimanche matin. Manifestons tout cela, tout ce que nous chantons par nos attitudes, notre attitude. Que ce ne soit pas de simples paroles récitées. Quand nous sortirons de l'église tout à l'heure, emportons avec nous les louanges que nous y avons chantées. Si nous avons chanté « Jésus est Seigneur », alors prenons-le comme notre exemple pour lundi, mardi, mercredi et les jours qui suivent. Il est notre maître, notre modèle. Si nous avons chanté « Aimons-nous les uns les autres », alors saluons-nous à la sortie du culte et saluons les personnes que nous ne connaissons pas, les nouveaux, les gens qu'on croise depuis quelques semaines et qu'on n'a pas osé aller saluer. Passons un coup de fil cette semaine. Prenons soin d'une personne. Si nous avons chanté ce matin, aimons-nous les uns les autres. Si nous avons chanté « Jésus, nous célébrons ta victoire ». Je cite des chants, hein. J'aime deux, j'ai regardé le j'aime deux. J'aurais pu faire un son, mais bon, j'ai regardé le j'aime deux. Jésus, nous célébrons ta victoire. Mais vivons dans cette victoire cette semaine. Soyons libres. Ayons cette volonté, pardon, de vivre libre et de ne pas laisser le péché nous emprisonner de nouveau. Jésus, nous célébrons ta victoire le dimanche et le mardi, nous célébrons notre défaite. La culpabilité est tombée. Nous ne sommes plus liés. Vivons libres. Vivons libres et que notre liberté soit à la gloire de Dieu. J'entre dans tes portes avec des louanges. Tiens. Nous chantons « J'entre dans tes portes » le dimanche matin. Et après, la porte reste fermée pendant toute la semaine. La porte prend les toiles d'araignée, la poussière grince tellement on l'ouvre rarement. La porte de la prière, la porte de la louange. On n'a pas besoin d'être dans une église à quelques-uns rassemblés pour louer Dieu, pour lui parler. J'entre dans tes portes. Eh bien, Seigneur, demain, je vais entrer aussi dans tes portes. Et puis mardi, j'entrerai dans tes portes. Je franchirai le seuil de ta maison. Je viendrai te voir. Je prendrai un petit peu de temps avec toi. Et puis je te dirai quand ça va. Je te dirai quand ça va pas. Je te dirai quand j'ai des choses à te demander. Puis je te dirai quand j'ai rien à te demander parce que tu m'as déjà donné tellement. Je te remercierai. Je te dirai aussi parfois que je suis pas content de ce que tu as fait. Je comprends pas. Je te dirai toutes ces choses. Je vais entrer dans ta maison. Parce que ce matin, j'ai prié, j'ai chanté, j'entre dans tes portes. Que notre louange est la musique du quotidien. Bénis l'Éternel quand tout s'effondre. Ah ouais, on chante ça le dimanche matin. Ouais, bénis l'Éternel, mon âme. Quand tout s'effondre, ouais, génial, tout s'effondre. Ouais. Les enfants ce matin, tout à l'heure, ils chantaient la tempête. Ouais, la tempête va venir. Ouais. Mais quand elle est là, on rigole pas, hein. Moi le premier, hein. Qu'est-ce que ça veut dire de chanter la louange à Dieu quand tout s'effondre et que toi tu es là? Si le lendemain, si je tombe malade, j'oublie que Dieu est là. Peut-être que demain, il y aura quelque chose de difficile qui arrivera pour l'un de nous, j'en sais rien. Ou mardi, ou cette semaine. On aura vraiment affronté une épreuve. N'oublions pas qu'on a chanté ce matin que Dieu est le vainqueur. Que quand tout s'effondre, Dieu est là quand même. N'oublions surtout pas ça, parce que sinon, excusez-moi, mais nous sommes des imbéciles. Nous disons des choses, nous les chantons, nous tapons dans les mains, moi le premier, et finalement, pouit, c'est ça notre foi, c'est ça notre louange. N'oubliez pas l'image de mon cuivre, terne, dans votre vie, votre bouilloire, elle est brillante? Votre foi, notre foi, elle est brillante? Ou est-ce qu'elle a besoin d'un petit coup de schpounz? Hein? Ça veut dire, quand tu viens le dimanche matin, mais ravive-la ta foi. Et quand tu repars de l'église, garde-la et continue de frotter. Garde ta communion avec Dieu. Que les louanges ne soient pas seulement une expression extérieure. Paul nous montre, avec ce texte, que la louange, et je rappelle qu'il cite un cantique, que la louange est en prise avec le quotidien et que l'un ne va pas sans l'autre. Autrement dit, venir au culte, ce n'est pas accomplir notre devoir de bon chrétien, de bonne chrétienne. Je ne vous dis pas de ne pas venir au culte. Je nous pose la question, pourquoi je viens? Pourquoi je viens au culte? Qu'est-ce que vous faites là? Et mon pupitre... Apparemment, le pupitre n'a pas apprécié. Bon, normalement, on aura un nouveau pupitre bientôt, hein, j'espère. Hein. Qu'est-ce que nous faisons là? Est-ce que nous venons juste pour que les autres nous voient? Pour rencontrer la tante Gisèle? Pour voir Jean-Louis et Yvonne, pour ceux qui connaissent? Qu'est-ce que nous faisons là? Nous venons louer Dieu. Nous venons fonder notre vie de tous les jours. Nous venons raviver notre foi. Nous venons la raviver ensemble. Nous souvenir que nous faisons un peuple, nous ici bien sûr, et puis avec des centaines d'autres, des milliers d'autres personnes à Mulhouse et des millions d'autres dans le monde. Non seulement il est bon pour nous de nous resituer devant Dieu, de nous redire ensemble, voilà, je suis une créature de Dieu, Dieu est mon créateur, je suis un enfant de Dieu, Dieu est mon Père, je suis une disciple de Jésus, Jésus est mon Maître. Retrouvons ces idées fondamentales de nos vies. Peut-être que le quotidien nous a poussé à U et à Dia, nous a fait oublier toutes ces choses fondamentales. Aujourd'hui, revenons à l'essentiel. Et puis, il est bon pour nous de nous remémorer, de raviver les bases de ce que va être notre semaine. la semaine qui s'ouvre maintenant, et elle va faire suite à la louange et elle va être nourrie par notre louange. Notre louange de ce matin n'a de sens, de pertinence que si elle fonde notre quotidien, que si elle rejaillit, qu'elle nourrit notre quotidien. Sinon, elle n'est qu'un cuivre terni dont on voit bien qu'il ne sert à rien. Lorsque nous chantons au culte, lorsque nous prions au culte, lorsque nous lisons un texte de la Bible, un psaume, cela nous donne des lignes, des attitudes, des principes pour notre semaine. Donc vivons comme nous y avons été exhortés, vivons pleinement ces temps de louange. Brisons les vitres à chanter trop fort. Ça, c'est une petite provocation pour les... Parce qu'on a des fenêtres... Il faudra chanter très fort pour briser ces vitres-là. Ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin d'exprimer ensemble avec vigueur, avec énergie, avec force, notre foi. Parce que c'est elle qui va fonder notre attitude à chacun dans son coin, dans cette semaine. Nous évoquons des choses profondes. Vivons pleinement ces temps de commémoration, de louange, de rappel, d'émotion. Ces choses profondes, fondamentales pour nous, des choses qui vont bel et bien influer sur notre vie de tous les jours, sur nos relations, sur nos choix personnels, sur nos manières d'être. Une fois que j'ai dit tout ça, est-ce que vous imaginez qu'on chante du bout des lèvres ? Seigneur, tu es formidable, tu es le maître, je t'obéirai. Est-ce qu'on va chanter comme ça ? C'est pas possible. Chantons, disons, vivons les choses pleinement. Ou alors, est-ce que nous n'allons prendre tout à l'heure qu'un demi-gobelet de Sainte-Seine ? Qu'un demi-morceau de pain parce qu'on ne veut pas trop s'engager ? Non. Prenons ce que Dieu nous donne et ce signe qu'il nous demande de partager, mais prenons-le plutôt deux fois qu'une. Nous serions-nous fait baptiser à moitié ? Côté gauche, côté droit, suivant nos options politiques, je ne sais pas. Non, nous nous sommes fait baptiser en entier. C'est notre vie tout entière. Et notre vie tout entière, elle est dans cette salle ce matin. Et il nous faut louer Dieu de notre être tout entier. Et nous prierions timidement devant ce Dieu qui nous a fait tant de bien. Et nous hésiterions à nous exprimer devant lui parce que, bon, on ne sait pas trop, peut-être que... Non, Dieu nous a fait du bien. Dieu est notre Père Céleste. Nous pouvons nous adresser à lui. Et le fait de s'adresser à lui, je me répète, cela va fonder notre semaine. Et nos visages resteraient impassibles devant l'amour de Dieu. Et nous resterions de marbre devant ce Dieu qui nous touche de sa grâce. Si dans l'Église primitive, ce cantique existait, et vous avez noté que ce cantique est théologiquement assez nourri, quoi, hein. Il y a de la haute, il y a de la christologie là-dedans, qui a fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre sur l'incarnation, sur la gloire de Jésus, sur sa nature humaine, divine, etc. Donc c'est un cantique qui a de la matière. C'est pas juste Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Il y a du contenu. Les chrétiens du début avaient besoin de se souvenir. Et vous savez, c'est comme les tables de multiplication. Il paraît qu'à l'école, on les apprenait en chantant. En chantant, ça rentre mieux. Bon, il y en a certains, même en chantant, ça n'est pas rentré. Hein. Et ben, les cantiques servent aussi à ça, à nous aider à nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. En l'occurrence, c'est cela. C'est pour nous aider à nous souvenir parce que la pression du quotidien risque de ternir notre mémoire, risque de recouvrir ces vibrantes certitudes d'une masse d'occupations, de préoccupations. Régulièrement, nous avons besoin de nous retrouver ensemble, de retrouver le cœur de notre foi, de raviver la mémoire avec un petit coup de brillant pour que notre foi pour que notre foi brille, soit visible, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit belle. Cela ne suffit pas de le faire le dimanche matin, de laisser le trésor dans son écrin. Il faut sortir notre trésor chaque jour de la semaine. La louange n'est donc pas un exercice à la mode, une occupation certes saine, une exigence qui s'impose à tout bon chrétien. C'est un rappel de nos fondements spirituels. C'est une réception émue de la grâce de Dieu, révèle par la Bible. C'est un équipement pour vivre au quotidien. Chapitre 2 de Philippiens, verset 4. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Je retiendrai uniquement ce verset pour finir mon propos. Tu as loué Dieu, moi aussi. Nous avons loué Dieu ensemble ce matin. Et un grand merci à l'équipe de louanges de ce matin. Nous avons loué Dieu, qui est venu vers nous. Nous allons célébrer tout à l'heure la scène où nous commémorerons le sacrifice que Jésus-Christ a fait de sa vie et sa résurrection. Alors maintenant, pour que notre louange alimente notre attitude, mettons-le tout de suite en pratique à la sortie du culte. Et puis bien sûr après, allons vers des gens, saluons, portons notre intérêt à ceux que, a priori, nous ne connaissons peut-être pas ou vers qui nous ne serions pas allés. Et je répète ce qui est dit, que chacun, au lieu de ce qui est écrit, que chacun, au lieu de regarder ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Je vous invite à prier. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes devant toi comme des enfants devant leur père. Mais en même temps, Seigneur, nous savons que nous venons de loin. C'est toi qui es venu nous chercher. C'est Jésus qui est venu dans notre humanité. C'est ton esprit qui vient dans nos cœurs. Alors oui, nous avons l'impression que c'est nous qui venons dans ta maison, mais en fait c'est toi qui viens vers nous. Et nous te répondons. Et Seigneur, maintenant que nous avons compris ce que tu fais pour nous, au moins en partie, nous voulons nous en souvenir et le proclamer et nous le redire et le redire encore. Et que cela ait une conséquence, des conséquences dans nos vies de tous les jours. Merci Seigneur pour cette exhortation de l'apôtre Paul aux Philippiens, qui est fondée sur une louange qui a été faite à Christ. Que cela nous aide, lorsque nous te louons, à passer ensuite à la pratique dans tous les domaines de nos vies. Béni sois-tu Seigneur. Amen.